MCITV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et si vous traversez une épreuve en ce moment, eh bien cette émission est pour vous. Nous allons vous encourager à surmonter l'épreuve sans fléchir. C'est ça le plus important. Les épreuves, ce sont des choses que on va tous vivre à un moment ou à un autre. Mais l'important, c'est de tenir ferme. Et aujourd'hui, je suis avec Frank et Nadine. Bonjour à tous. Les deux.
Voilà.
Oh, Frankie Boot, ça y est.
Il commence.
Ça va mal, ça va mal.
Tu vas surmonter sans fléchir.
Toutes sortes d'épreuves en ce moment.
Oh. Et donc, tu veux chuter dans la plainte?
Ça m'énerve. Alors qu'on est là en train...
Ah. Eh ben voilà.
C'est de pire en pire, eh ben voilà. Ici, sur ce plateau.
Tu vois?
Tu as fait sursauter, je croyais vraiment que tu l'as pas fait exprès.
Tu vois ce qui se passe quand on a une mauvaise attitude dans l'épreuve? On chute!
Illustration.
Moi, ce qui me fait le plus rire, c'est quand je me dis que dans sa tête, il a vraiment pensé, oh, je pourrais descendre ma chaise! Et il va se dire, oh, ça va être drôle! Ça va bien, Frank?
Mon téléphone n'est pas encore en mode concentration.
Ouais. Active-le.
Oui, ça va bien, oui.
Ça va bien.
Ça va, vous, les madames?
Ça va très bien,
madame
Frank.
Et madame,
moi, je suis là toute la semaine, cette semaine.
Ah.
Si tu ne savais pas, Yveline.
Ah, ben, je le sais, c'est moi qui t'ai mis toute la semaine.
Toute la semaine, je suis là.
Mais ouais.
T'es heureux? T'es content?
Toute la semaine, je suis là.
Bon, sur ces bonnes paroles de Frank, très encourageantes et édifiantes, Nadine, aujourd'hui, tu vas faire une rubrique conseil du coach.
Oui, on va parler de comment surmonter l'épreuve, parce que comme tu l'as dit dans ton intro, l'épreuve nous arrive à tous, malheureusement, mais il y a des façons de passer à travers et d'arriver du côté de la victoire en Jésus-Christ. Mmh. On va voir ça tout à l'heure.
Mais oui, parce qu'il y a du bon qui peut sortir de l'épreuve. On n'est pas juste censé subir. Et si vous n'avez pas suivi l'émission d'hier, on a parlé du combat spirituel, de la façon de combattre. On a parlé de l'importance de la louange aussi dans le combat spirituel. Et en fait, cette émission aujourd'hui est un peu une suite à ce qu'on a abordé hier. Donc, si vous n'avez pas eu l'opportunité d'écouter l'émission d'hier, je vous invite à aller l'écouter sur notre chaîne YouTube ou sur le site emcitv.com. Frank, dans la joie et dans la bonne humeur, nous te cédons la place pour la pensée du jour.
Les épreuves. C'est une émission sur les épreuves et c'est jamais agréable, excepté ceux qui, dans lesquels tu te lances volontairement. Parce que les gens qui se lancent dans des épreuves volontairement, mais même quand c'est une épreuve sportive, un truc que tu veux faire, et tu, je vais le faire, un triathlon où est-ce qu'à la fin tu pleures tellement que t'as mal et que c'est lourd et tu vomis tellement que tu es fatigué physiquement. Et, en fait, même si c'est volontaire, l'épreuve amène un niveau de désagrément qui va être là. Et on le sait qu'il y a plein de sortes ou de types d'épreuves, mais aujourd'hui, je veux qu'on puisse lire ensemble quelque chose, parce qu'en effet, même si c'est volontaire ou pas, ou est-ce qu'il y a quelque chose, tu t'es réveillé, ça tombe dessus, comme on peut le dire, c'est vraiment, c'est, pourquoi est-ce que ça aujourd'hui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Jacques, chapitre 1, verset 2 à 4, très, très, très connu. J'ai envie de dire classique par rapport aux épreuves, mais j'ai envie de faire ressortir une chose en particulier. Jacques écrit à des enfants de Dieu qui sont dans une situation de persécution et il leur dit, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Là, ici, je veux faire ressortir deux choses, très rapidement. Considérer comme un sujet de joie complète. Il nous exhorte à considérer, à voir, à analyser, à regarder, à se dire, je vais considérer cette chose qui m'est tombée dessus ce matin comme le sujet d'une joie complète, ou je vais le dire comme ça, c'est pas facile. Je le dis, Yveline rit à côté de moi. tu te dis, mais considère ça, oui, c'est-à-dire décide volontairement de changer ta perspective avec laquelle tu regardes cette chose. Vois-toi ou comprends qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Malgré que tu vis cette épreuve, dis-toi, j'ai le fruit de l'esprit en moi. Je vais choisir la joie et pas la colère. Je vais choisir la paix et non pas l'inquiétude dans cette épreuve, même si c'est pas facile, même si c'est compliqué. Et je vais choisir de faire ce que Jésus m'a dit, d'aller vers lui et me décharger de tous mes soucis à ses pieds. Et là, tu commences à vivre la chose différemment. Alors que t'es en route vers le travail, c'est peut-être pas toujours une question de vie ou de mort, ou est-ce que t'es persécuté, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de très... Non, d'autres fois, c'est des choses plutôt simples, mais que tu te laisses voler. Et là, ici, il dit à des gens qui étaient persécutés, considérez ces choses comme un sujet de joie complète. Pourquoi? Parce que cette épreuve va produire quelque chose. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dans le jardin de Gethsémané, vit ce moment terrible, ce moment où est-ce qu'il est dans le pressoir, où est-ce qu'il doit se soumettre à la volonté du Père. On le sait que ça le produit quelque chose d'extraordinaire par la suite. Il savait ce qu'il attendait. Pas juste la douleur physique, mais la séparation et même porter le poids du péché de l'humanité tout entière sur lui. Il est là dans cet endroit. C'est pas facile, mais il se dit, et dans Hébreu, la parole nous dit qu'il avait en perspective. Il voyait la joie qui lui était réservée. Où est-ce qu'il allait être élevé, assis à la droite de Dieu? Et là, à cause du fait de voir les choses différemment, de se dire que là, je peux avoir la bonne perspective, mais je sais aussi que ça va produire quelque chose. Même si c'est négatif, même si je semble atteint en ce moment, je vais faire confiance à Dieu. Et dans cette situation, autant que Jésus a pourvu à travers de l'œuvre de la croix, je vais croire que malgré ça, je choisis cette perspective que je vais enfin ressortir quelque chose de bien. Je vais grandir à quelque part. C'est pas toujours pour se dire, c'est pour ça que Dieu l'envoie ou que ci et ça. Non. Mais à travers de cette épreuve, je choisis d'avoir la bonne perspective.
Amen. Merci, Frank. Et tu as cité ce verset de Jacques. C'est notre verset du jour. Je propose qu'on l'affiche, qu'on le regarde ensemble parce que c'est important de bien le comprendre. Jacques 1, verset 1 et 2. Donc, j'ai fait la version plus courte que toi. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. En fait, Jacques est en train d'expliquer que oui, pourquoi on se réjouit? On se réjouit pas parce qu'on va souffrir, mais on se réjouit de ce que ça va produire de bon. Parce que, en fait, on a cette assurance d'avoir la victoire, quoi qu'il en soit. Mais comme tu l'as dit, il y a plusieurs types d'épreuves. Il y a l'épreuve de notre foi, comme on a pu le voir certaines fois dans la Bible, où Dieu a éprouver son peuple pour voir réellement ce qu'il y avait dans son cœur. On le sait qu'il n'éprouve pas par la malédiction, par la maladie, etc. Ensuite, il y a les attaques du diable, clairement, qui sont là vraiment pour nous nuire, tout ce qui est persécution, tout ce qui est souffrance même physique, etc. Et ensuite, il y a les conséquences de nos mauvais choix, de nos mauvaises décisions, sans parler effectivement des épreuves volontaires qu'on peut s'infliger, comme tu le parlais avec ton triathlon. Je ne m'inflige jamais ce genre d'épreuve.
Faire, Evelyne, les triathlons annuellement.
Mais ça produit sûrement quelque chose de bon, mais quoi qu'il en soit, on voit que peu importe le type d'épreuve, il y a quelque chose de bon qui sort, c'est cette persévérance. Mais attention, on peut ressortir avec autre chose de l'épreuve si on a une mauvaise attitude. On peut ressortir avec de l'amertume, on peut ressortir avec de la colère, avec du doute, de l'incompréhension et même avec une foi encore plus affaiblie qu'avant qu'on commence l'épreuve. Parce que notre attitude est importante. C'est pour ça que Jacques dit de se réjouir. Tu vois l'épreuve arriver, commence déjà à te réjouir parce que ton attitude va être déterminante pendant l'épreuve. Et si tu veux que ça produise la persévérance, cette persévérance qui va effectivement nous rendre ensuite suffisamment forts pour tenir jusqu'au bout, comme on le voit dans le verset 4, eh bien, il va falloir que ton attitude soit bonne. Si t'es dans la plainte, si justement t'es en train de remettre en question, t'es en train d'accuser Dieu, t'es en train de te rebeller même contre Dieu, contre l'Église, contre les pasteurs, contre tout le monde, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il n'y a pas de bon fruit qui va sortir. Et c'est important de comprendre, parce que moi, j'ai déjà entendu des gens dire, ouais, ben, c'est bien gentil, mais moi, je suis passé à travers cette épreuve-là et il n'y a rien de bon qui est sorti derrière, mais rien du tout. Mais c'est parce que notre attitude est déterminante dans ces moments-là.
J'ai envie de dire que ça commence premièrement par une décision, parce qu'il y en a qui vivent des épreuves en ce moment. C'est arrivé souvent, et c'est pas parce que je suis fou, mais que je me suis parlé à moi-même. Mais alors que t'es dans ta voiture, t'es à quelque part, t'es en train de... Tu vis, la colère monte, l'incompréhension, la frustration, tu commences à serrer les dents, t'es énervé. Je choisis la joie. Tu le dis. Mm-hmm. T'as l'air d'un débile parce que pourquoi est-ce que je choisis la joie? Je suis un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en moi. En fait, tu commences à te parler. Tu proclames la parole. Tu commences à décréter ce que tu vas être et ce que tu choisis. À haute voix, tu le dis, que tes oreilles l'entendent et c'est pas juste dans mon cœur, je vis. Non, en couple, tu peux dire, nous choisissons la foi. Cette épreuve, on choisit une attitude de foi. Et là, soudainement, à force de le dire, et c'est pas juste à cause que tu le dis, non, c'est que ça devient une réalité. Ce que tu as choisi, la décision que tu as prise dans cette épreuve, commence à se manifester. Mm-hmm. Et là, tu te réveilles le lendemain, c'est comme, waouh, ok, tu vois même différemment, et il y a une espérance nouvelle qui va naître, parce
même
que là...
Si rien n'a changé.
Non, c'est mm-hmm. même, la tempête est là. Mais soudainement, il y a de l'espérance. C'est comme tu vois la lumière, tu arrives à la percevoir alors que tu voyais rien la veille. Mm-hmm. Soudainement, wow, ouais, parce que la foi est en train de jaillir en toi. Et ça, c'est une décision.
Mm-hmm. J'aimais quand tu parlais de considérer en parlant de Étienne, dans ta pensée, tu as parlé d'Étienne. Et je crois que la prière est quelque chose de tellement important lorsqu'on passe à travers une épreuve.
J'ai pas parlé d'Étienne.
Oui, tu as parlé d'Étienne dans ta pensée. Tu l'as dit à un moment donné. De quoi?
Dans sa tête toute seule.
Tu l'as pas dit?
Étienne,
Emeline! Bah, attends, là, tu mets, je
suis en doute, là. Je suis dans le jardin.
Ah, ok, ben, je pensais à Étienne. Bah, du coup.
Étienne a vu au ciel. Étienne a regardé.
Mais c'est ça que t'as dit?
Non, Jésus avait la perspective dans Hébreux, ça nous dit qu'il voyait un...
Elle dit, fais-nous avec Étienne.
Vas-y, c'est Nadine, c'est ton point.
Je choisis la joie.
C'est ton point, maintenant.
Je pense que le Saint-Esprit voulait te parler d'Étienne, vas-y.
Ouais, parce que je me suis dit, mais il parle d'Étienne, je voulais parler d'Étienne. Bon, bref.
Je vais pas le souvenir, mais j'ai peut-être...
En tout cas, je pensais au verset de, justement, d'Étienne qui regardait au ciel et qui voyait, alors qu'il était persécuté, qui voyait Jésus à la droite de Dieu. Et en fait, on parle de considérer dans le verset qui a été utilisé, du fait qu'on considère quand on a tous les éléments, en fait. Et des fois, on voit notre tristesse, on voit notre épreuve, mais on met pas en compte l'élément de Dieu, l'élément du secours de Dieu, du caractère de Dieu. Et pour pouvoir considérer toutes ces choses-là, il faut justement dans la prière recevoir ces choses-là. Et je vais encourager les gens parce que justement quand tu vis une difficulté, quand tu vis une épreuve, quand tu vis un temps difficile, là des fois la dernière chose que tu as envie de faire, c'est de prier.
Bah oui.
La dernière chose que tu as envie de faire, c'est d'aller vers Dieu, de faire ce recours au Seigneur et vraiment de nous encourager à prier. Une prière un peu comme on a parlé hier par rapport au combat spirituel, mais même une prière juste pour se décharger, pour dire oui Seigneur, je traverse cette situation, comme tu le disais, je comprends pas, je vois pas qu'est-ce que j'apprends dedans. Les gens me disent que dans une épreuve, tu peux apprendre quelque chose, mais j'apprends pas en fait. Et je souffre et je n'ai pas envie. Et comme ça, on commence à prier, on déverse notre cœur. Et à un moment donné, parce qu'on prie et on lit la parole, parce que les deux vont ensemble, alors que tu lis la parole, tu vois le cœur de Dieu, tu vois son intervention, tu vois qui il est. Et là, maintenant, la prière de foi arrive en fait. Et il y a une espèce de parcours qui se fait en fait. Et à ce moment-là, la prière de foi arrive. Et quand la prière de foi arrive, tu te mets à regarder au caractère de Dieu, à regarder au Seigneur, à ne plus considérer ta situation, mais à considérer la grandeur de Dieu et son intervention. Et c'est comme la parole nous dit, ben, quand on tourne les regards vers lui, ben, on est rayonnant de joie, en fait. Et c'est comme ça que ton attitude peut se mettre à changer. Et alors que t'es encore dans le creux de la vague, tu sais que ça va se terminer. Mais si tu fais pas cet exercice-là d'aller dans la prière, parce que des fois, les gens, ils ont l'impression que tant que je me sens mal, ben, ça vaut pas la peine d'aller dans la prière. Mais va dans la prière même quand tu te sens mal. Parce que c'est quand tu vas aller quand tu te sens mal, que là, tu vas te sentir bien et que tu vas pouvoir continuer. Mais si tu n'y vas pas, ton cœur va s'endurcir, en fait. Mm-hmm. Et si ton cœur s'endurcit, comme tu as dit tout à l'heure, ben, tu marches dans les plaines, dans les murmures. Et du coup, tu ralentis, entre guillemets, ce temps d'épreuve. Voilà.
Et je vais faire, Frank? Tu lèves la main, c'est nouveau.
Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière ou la course qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hallelujah! Il voyait la joie qui lui était réservée et il a traversé ce moment d'épreuve. Et aujourd'hui, c'est ce que je voulais faire ressortir alors que Nadine disait que je parlais de Étienne.
Je vais réécouter cette émission, juste pour réécouter la pensée. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, bref, c'est pas grave. Je m'excuse.
Quoi qu'il en soit, c'était édifiant. Quoi qu'il en soit.
T'as fait un bon point, Nadia.
Je m'excuse d'avoir osé mettre dans votre bouche, oh frère Poulain.
Mais non, mais c'est vrai, Étienne a regardé et elle a vu.
Oui, je sais que c'est vrai.
Ça marche.
Vraiment, c'était...
Je sais que c'est vrai.
En fait, vraiment dit la vérité.
Avant qu'on passe à ta rubrique, je voulais juste nuancer un point. Je veux être sûre que pour les gens qui nous écoutent, ce soit bien clair. Ça veut pas dire que tu es passif dans l'épreuve, te disant, ah ben, c'est bon, ça va produire quelque chose de bon. Donc, on a parlé de l'attitude, mais l'émission d'hier est importante parce que justement, en fait, on n'est pas passif à attendre et à subir l'épreuve. On est proactif. On va chercher cette persévérance. On va chercher cette victoire, cette récompense et on se laisse pas marcher dessus. Je veux juste nuancer parce que ça peut donner l'impression qu'il faut juste attendre et puis dire, ah, l'épreuve est bonne. Je suis joyeux dans l'épreuve et tout ira bien. On est offensif. Voilà. Je voulais juste nuancer. Alors, allez écouter l'émission d'hier, je le redis. Nadine, on enchaîne avec toi avec la rubrique Conseil du coach.
Alors, on va faire une rubrique aujourd'hui sur comment rester debout pendant l'épreuve. Parce que votre épreuve, je ne sais pas qu'est-ce que vous...
Une rubrique témoignage d'aujourd'hui, Nadine.
Comment? Ah ouais.
Nadine, elle doit rester debout. Je suis avec toi, Nadine.
Est-ce qu'on met une minute à cette émission?
Non,
elle m'avait piqué. Ok, bon, bref.
Ok,
comment rester debout pendant l'épreuve? Nous allons aller dans la parole de Dieu, frères et sœurs. On va se concentrer. Tout va bien aller. On va lire dans Ruth 1 au verset 14. Ruth 1, verset 14, la Bible dit « Alors les deux belles filles se remirent à sangloter. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. » Et je voulais juste commencer cette pensée, cette rubrique en parlant de ça, parce qu'en fait, dans ce cas de Ruth et de ses deux belles filles, de Naomi et de ses deux belles filles, on voit qu'elles ont vécu une épreuve. L'épreuve, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une maladie que vous vivez, ça peut être des difficultés relationnelles, peut-être dans votre couple, avec vos amis, votre famille. En tout cas, une situation désagréable que vous traversez. Et dans ce contexte, Naomi et les deux belles filles, ben elles ont perdu leur mari. Elles ont chacune perdu leur mari. Naomi a perdu son mari et les deux belles filles aussi. C'est une épreuve monumentale. C'est quelque chose de tellement difficile. Mmh. Et on voit qu'à ce moment-là, il y a comme une jonction. Et il y a une décision qui est prise. La décision, c'est que Ruth va aller avec Naomi et Orpa va retourner chez les siens. Et on connaît l'histoire de Ruth. On voit comment Dieu a pu la restaurer. En fait, à partir de cette décision-là dans l'épreuve, ça a produit quelque chose dans la vie de Ruth. Dans la vie d'Orpa, on ne sait pas parce que la Bible n'en parle pas. Mais tout ça, c'est pour nous dire que l'épreuve n'est pas la fin. Et je veux vraiment vous encourager dans ce sens-là, que l'épreuve n'est pas la fin. J'imagine que Ruth, à ce moment-là, se disait « My goodness, le monde m'est tombé dessus. Qu'est-ce que ma vie va devenir ?» Et Naomi même le disait « Qu'est-ce que je peux vous offrir ? Qu'est-ce que la vie n'a rien de bon à nous réserver, en fait. Il vaut mieux attendre la mort et c'en est fini de nous. » Mais l'histoire nous montre comment Dieu a pu restaurer. Et je veux par là vous encourager que l'épreuve n'est pas la fin. La Bible nous dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et garder, lorsqu'on regarde la racine hébreu de ce mot, c'est vraiment de surveiller, de préserver, de veiller, d'être un gardien, en fait, de garder contre les dangers. Et de garder notre cœur, garde ton cœur plus qu'autre chose, c'est garde ton âme, garde le siège de tes émotions, garde vraiment la perspective, ton esprit, la pensée, les réflexions que tu as par rapport à quelque chose. Mmh. Et alors que tu passes à travers une épreuve, vraiment, je t'encourage à méditer ce verset. Garde tes pensées, garde ton âme, veille sur ton état émotionnel, veille sur tes pensées, veille sur que ton esprit soit vraiment fortifié à travers cette situation, parce que si tu gardes ton cœur, tu pourras prendre les bonnes décisions, tu pourras être à l'écoute de Dieu, tu pourras faire ce qu'il faut. Et lorsque notre cœur n'est pas gardé pendant l'épreuve, lorsque notre cœur n'est pas gardé, notre cœur se décourage et faiblit, on voit plusieurs signes. Je vais vous en nommer quelques-uns. Un cœur qui va être agité. On va manquer la paix si on n'a pas gardé notre cœur pendant l'épreuve. On va être amer, un cœur rancunier, un cœur qui va manquer d'espérance. On va penser que c'est trop tard, que l'horloge de Dieu, voilà, est arrivée à sa fin, qu'il n'y a plus rien pour nous. On va être comme ça découragé par rapport à tout ça. On va oublier que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Lorsqu'on n'a pas gardé notre cœur et qu'on s'affaiblit pendant l'épreuve, on va être tout simplement malheureux. On va manquer de joie. Mais comme on a dit tout à l'heure pendant la pensée, que le fruit de l'esprit c'est la joie aussi. Et encore, alors qu'on passe par une épreuve, on est toujours enfant de Dieu. Donc l'esprit de Dieu, il nous a pas quittés parce qu'on traverse une épreuve. Donc ce que l'esprit peut produire, que ce soit la joie, la tempérance, la paix, paix, toutes ces choses sont encore disponibles pour nous. J'aimerais vous encourager avec un verset que j'aime beaucoup, qu'Aurélie aussi aime. C'est elle qui me l'a même beaucoup partagé. C'est Psaume 31, verset 16. La Bible dit « Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. » Et alors que tu traverses une épreuve, rappelle-toi que tes destinées sont dans la main de Dieu et que Dieu est capable de te délivrer de tout ce qui peut t'accabler. Et lorsqu'on ne garde pas notre cœur, justement, alors que j'avance dans cette rubrique, j'aimerais vraiment vous encourager parce que les conséquences sont quand même nocives. On parlait tout à l'heure dans la discussion qu'on peut ralentir même le temps qu'on passe dans l'épreuve. Et on va le ralentir comment? Parce qu'on va avoir des faux raisonnements. On va commencer à penser, comme je disais tout à l'heure, que Dieu nous a oubliés. On va arrêter de lui faire confiance. On va avoir comme ça une vision à court terme. On va pas comprendre que Dieu aussi travaille dans la durée et qu'il faut être patient. Et dans cette patience-là, Dieu est en train de travailler des circonstances aussi en notre faveur. Je parlais tout à l'heure d'une épreuve, par exemple, d'un chômage. Et alors que tu es patient dans cette épreuve de chômage, mais Dieu est en train de travailler. Peut-être il y a une compagnie qui va s'installer dans ta ville. Il y a un recrutement qui va avoir lieu. Et le jour que tu vas là à cette entrevue et que tu vas avoir cet emploi, tu vas dire, ah, si j'aurais su que j'aurais eu cet emploi ici, j'aurais été beaucoup plus patient. Donc vraiment, je vous encourage à être patient, à reconnaître qu'il y a un temps pour la semence, il y a un temps pour semer, mais il y a un temps pour moissonner. Et vraiment, je déclarais dans le nom de Jésus que vous traversez cette épreuve. Et alors que vous êtes dans cette épreuve et que vous semez de la prière, que vous semez de la patience, que vous semez de la foi, vous allez moissonner une moisson abondante au temps opportun. Et comme je disais aussi dans la discussion, c'est que lorsqu'on passe à travers une épreuve, on a tendance à se détacher du Seigneur, à penser justement parce qu'on pense à tort que Dieu nous a oubliés. On n'a plus envie de prier, on n'a plus envie d'aller à l'église. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils traversent des temps difficiles, c'est là qu'ils arrêtent de servir, c'est là qu'ils s'isolent en fait. Ils coupent les ponts, etc. Et vraiment, faut faire le contraire. C'est pour ça qu'il faut garder notre cœur. Parce que notre âme voudra se dire, oh, Dieu m'a oublié, j'ai envie de tirer les rideaux, de rester sous ma couverture. Mais en fait, nous devons vraiment combattre ça. Parce que si on fait ça, on va juste prolonger en fait notre temps de souffrance et on n'aura pas l'aide dont on a besoin. Alors, comment rester debout pendant l'épreuve? Parce que c'est ça le titre de cette rubrique. Romains 8 au verset 28 nous dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. » Donc lorsqu'on médite ce verset, on sait que peu importe, alors que je vis cette situation, Dieu va le faire concourir à mon bien, comme Yveline l'a expliqué tout à l'heure. Il y a des choses, c'est pas Dieu qui nous envoie, parce qu'il est le Dieu de bénédiction, donc il ne peut pas nous maudire. Donc si on vit une preuve de malédiction, c'est pas lui qui l'a envoyé, mais parce qu'il est Dieu, parce qu'il est souverain, parce qu'il est grand, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances, il peut faire concourir ce que l'ennemi voulait nous donner comme bâton dans les roues. Il peut les faire concourir à notre bien. Alors que tu passes par un temps d'épreuve, j'aimerais t'encourager à faire ces trois choses pour rester debout pendant ton épreuve. 1. Partage ton fardeau. Galates 6 au verset 2 nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ ». Partage ton fardeau, ne garde pas ça pour toi-même. Ce que tu vis, d'autres personnes l'ont déjà vécu avant toi. J'aime dire que notre histoire, elle est particulière, mais en même temps, elle est commune. On vit des choses, c'est vrai que ça nous touche parce que ça nous arrive à nous, mais quelqu'un d'autre qui est passé par un deuil, qui est passé par un manque d'emploi, qui est passé par une séparation, qui est passé par une maladie, il y en a d'autres qui sont passés par là et que Dieu a pu aider. Donc quand tu partages ton fardeau, non seulement ça te soulage, mais en même temps tu vois aussi dans la vie des autres ce que Dieu a fait et aussi ça te permet aussi de recevoir aussi cet encouragement-là. Donc ne vis pas ton épreuve tout seul. Point numéro 2, mets de la louange. Où ta bouche ne pouvait pas parler, la louange peut le faire. Des fois, comme je disais, on va pas aller à l'église, on n'aura plus envie de prier, etc. Mais lorsqu'on met de la louange, je sais pas pour vous, mais alors que tu chantes avec eux, avec la chanson, toi-même tu commences à dire des choses, toi-même tu commences à voir, oui mais Dieu est grand, Dieu intervient, Dieu est bon, Dieu m'aime et tout ça, et ça fait quelque chose en fait à l'intérieur de toi. Et alors que l'ennemi veut que tu fermes ta bouche, que tu ne dises rien, et peut-être prier tu ne seras pas capable, pas de souci. Mais chanter, tu peux. Ouais. Chanter les paroles de l'autre. Tu empruntes les paroles de ce chant pour commencer à déclarer des choses dans ta vie. Et le troisième conseil, ce serait de méditer sur comment se décharger sur Dieu. Parce que vraiment, se décharger sur Dieu, c'est tout un process. Moi, il y a plusieurs années, j'avais présenté un livre ici à Culture et Média de Kenneth Hagin sur se décharger sur Dieu de tous ses soucis. Et quand j'ai lu le livre, habituellement, je lis les livres pour les présenter. Et là, le livre m'a vraiment interpellée. Et c'est un tout petit livre. Mais en fait, la façon dont il expliquait, il y a vraiment tout un process de quand on se décharge en fait. Et j'ai commencé à comprendre que tiens, oui, je dois vraiment me décharger. Mais des fois, on se décharge, on prie, oui Seigneur, regarde ce fardeau, je te le donne. Puis après, quand on finit de prier, on reprend le fardeau avec nous. On prie le dimanche, le lundi, on reprend avec nous. On recommence à s'inquiéter. Mais j'ai déjà confié ça à Dieu. Pourquoi je m'inquiétais dessus? Je devrais commencer maintenant à déclarer ce que Dieu a dit. Je devrais commencer à rechercher dans sa parole ce qu'il va dire. Mais des fois, on reprend notre fardeau après qu'on l'ait déposé, en fait. Et faites le travail de vous décharger. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Yes. Et commencer à se décharger sur lui de tous nos soucis, c'est de lui laisser les commandes de tout. Et de comprendre qu'il prend soin de nous, parce qu'il m'aime. Décharge-toi de tous tes soucis sur le Seigneur, pas parce que tu es pas spirituel, parce qu'il prend soin de toi. C'est lui qui prend soin de toi, en fait. Et quand tu comprends ça, ça fait vraiment toute la différence. Commence à chercher des versets comme ça pour t'encourager. Dans Matthieu 6, au verset 34, nous dit, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Si Jésus nous dit de ne pas s'inquiéter du lendemain, pourquoi tu t'inquiètes du lendemain? Pourquoi tu penses, comme le diable te dit, ben, s'inquiéter, c'est être responsable, commencer à penser dans 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain appartient au lendemain. Aujourd'hui appartient à aujourd'hui. Et c'est spirituel que de ne pas marcher dans l'inquiétude. C'est pas dire qu'on ne prévoit pas, qu'on ne planifie pas, mais il y a une différence entre les deux. Et comprendre que non, je me décharge, je fais confiance au Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, mais faites-lui connaître vos besoins, etc. par des prières, des supplications. Encore des versets à méditer quand on traverse une situation d'épreuve. Et pour terminer, j'aimerais vous partager ce verset, j'y pensais hier, et je l'ai écrit rapidement. Hébreux 4, verset 16. Parce qu'il faut méditer la parole, vraiment, pour s'en sortir. Hébreux 4, verset 16 nous dit, approchons-nous donc, avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Alors, on va faire un exercice rapide. 1. Approchons-nous. Donc, ne reste pas isolé dans ton épreuve. 2. Du trône. Ça veut dire que tu te rapproches. Qui est sur un trône? C'est un roi. C'est quelqu'un de puissant. Donc, tu t'approches de quelqu'un qui a la solution pour toi. 3. Afin d'obtenir compassion. Donc, tu t'approches pour obtenir quelque chose. Il est disponible pour t'aider. 4. Être secouru au moment opportun. Ça veut dire que Dieu va le faire. C'est juste une question de temps. Alors, sois patient dans ton épreuve, mais ne sois pas passif.
Oh, magnifique conclusion, Nadine.
Oh, bravo.
Tu es restée debout.
Bravo, Nadine. J'ai surtout aimé quand elle a parlé de Sanballat et Jéroboam. Et encore plus du prophète Nahum.
Terrible, Frank.
J'ai que 2 émissions avec toi cette semaine, c'est bon, ça va aller,
ça va aller. Nadine, tu peux le faire.
Je peux, je choisis la joie, rubrique.
C'est une belle rubrique, Nadine.
Merci à tous les deux. Et quand je t'écoutais, Nadine, je pensais à David. David qui a traversé beaucoup d'épreuves. Et en fait, sa persévérance s'est bâtie dès qu'il était berger, quand il combattait le lion, sa persévérance grandissait. Ensuite, quand il a vaincu Goliath, sa persévérance a encore grandi. Et pourquoi? Parce qu'il y avait de grandes épreuves qui l'attendaient derrière. On le sait avec tout ce qu'il a vécu avec le roi Saül, toute la persécution qu'il y a eu, mais il a gardé la bonne attitude et il est devenu le roi David qu'on a connu. Et je crois que c'est un beau modèle à imiter. Le roi David a pu se plaindre dans les psaumes, on peut le voir. Il a pu parfois avoir des moments down, mais il remonte toujours et il replace toujours sa confiance en Dieu. Et il a refusé le compromis alors qu'il avait l'occasion de tuer Saül. Il ne l'a pas fait, il a refusé le compromis, il a refusé de se faire justice lui-même, il a fait confiance à Dieu. C'est un très bel exemple. Je vous invite, si vous traversez une épreuve, à méditer sur l'histoire de David. Demain, on change de thématique, on sort de l'épreuve, on parle de retraite spirituelle, un face-à-face avec Dieu. Et Frank, tu feras une rubrique conseil du coach, comment entendre la voix de Dieu? C'est la grande question. Et quand on va en retraite, on veut entendre la voix de Dieu. Alors, toute la responsabilité est sur toi, mon cher frère. Et on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous. Bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.